Sportub, les hommes savent pourquoi. Et les femmes aussi. Enfin, sérieux les gars, il n'y a pas de raison, on est au 21e siècle quoi, bordel.
Et bonsoir à tous, on se retrouve donc pour cette nouvelle émission, pour ce nouveau quadri. On est là, on sait la rentrée, on est tous en forme évidemment. Et on se retrouve avec une équipe presque au complet. On va faire le tour comme d'habitude. François, comment ça va?
Et ça va Maxence?
Bah ça va très bien, et toi François?
Merci.
Et toi Sacha, ça va?
Non.
Ok, et toi Thibaut, ça va?
Ça va super, et toi?
Ah ça va, merci, ça va Hugo?
Ça va pour le mieux, et toi?
Ça va, merci. J'ai eu peur avant de confondre Team Hugo et Nathan. J'étais là, waouh, attends, à tout moment j'ai fait une erreur. Et toi, Nathan, ça va du coup?
Ça va très bien.
Ah bah voilà, si tout le monde va bien. Oh là là, quelle bonne humeur, quelle bonne ambiance. Oui, j'allais oublier Théo évidemment, mais Théo, t'as oublié mon jingle, donc je t'oublie, c'est un peu logique.
Non, c'est pas moi qui ai oublié le jingle, c'est l'ordinateur qui n'a pas voulu lancer le jingle.
Toujours les autres.
Excuses, effectivement.
Ce n'est jamais ma faute.
François a raison. Oh, c'est bien, c'est de voir tout le monde en forme, hein. Donc on a eu des belles vacances.
Et salut Maxence, comment vas-tu?
Oh bah je vais très bien.
Parce qu'on t'a pas présenté.
C'est vrai, merci. Mais je pense que tout le monde m'avait reconnu évidemment. C'est un peu logique à un moment. Ma voix, tout le monde s'en souvient. Non mais bref, donc ça fait un mois et demi, voire même deux mois qu'on n'a pas eu émission. Donc ça fait longtemps qu'on s'est plus parlé entre nous, hein, en petit comité comme ça. Mais du coup, il y a eu des gens qui ont fait des choses là durant les vacances. Théo, t'es parti à Amsterdam, il me semble.
C'est exact, c'était très sympathique, Amsterdam, avec un très très beau stade que j'ai été visiter, pas de fond en comble parce que c'était une visite guidée, mais quand même très sympathique. J'ai appris quelque chose assez folle. J'ai appris par exemple que nos trois défenseurs centraux principaux, hormis notre pensionnaire d'hôpital favori, sont tous passés par l'Ajax. Je ne savais pas que les trois étaient passés par l'Ajax, et voilà, j'ai appris ça et j'étais assez surpris et agréablement surpris.
Et du coup, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui sont les trois défenseurs principaux?
Nous avons donc Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et j'ai un trou sur le troisième.
Thomas Vermaelen,
exactement.
C'est toi qui as fait la visite, hein, je te rappelle.
Oui, mais c'était il y a longtemps.
Ah oui, bah oui, c'était il y a deux semaines.
Exactement, oui, il y a deux semaines.
Et on a un autre animateur qui a visité un stade également, Hugo. Tu as visité quoi comme stade?
Le Signal Iduna Park à Dortmund. Donc j'ai été voir la victoire 5-1 contre Cologne. Et une nouvelle fois, le prodige norvégien nous a fait rêver. Erling Haaland a encore mis un doublé sur ce match-là, après une entrée de 20 minutes. Donc
Oh, ça va, c'était en échauffement, quoi. Voilà. On va pas se mentir. Hein. Haaland qui n'est toujours pas titulaire, il me semble qu'il n'a toujours pas commencé le moindre match. Mais on en parlera plus tard avec Sacha, qui nous parlera du mercato international. Est-ce que parmi vous, d'autres, il y a d'autres personnes qui ont visité quelque chose, qui ont fait des... Thibaut, oui, je vois que tu hoches la tête là.
Oh, moi je suis parti à la mer en Égypte, tranquille.
Ouais, mais rien avec le sport, Thibaut.
Ah non, rien avec le sport.
Ah, bon, non,
massage.
Encore une fois, si j'ai
rien, non.
Et François, du coup, là tu nous montres un petit signe.
Ouais, moi j'ai fait du sport, je suis parti au ski. Avec l'IEX, mais c'est du sport, excuse-moi.
Ah, c'est vrai que la guindaille, c'est un sport, c'est le sport des étudiants par
et
excellence.
Enchaîner autant de soirées, Théo, à un moment, oui, c'est du sport. Et
oui, surtout aller sur les pistes le lendemain matin, parce que François
la nuit,
est un grand skieur.
Grand la nuit, grand le jour.
Et voilà,
mais ça dure une semaine, après il faut deux semaines pour s'en remettre.
C'est pour ça que sa voix est encore un peu fatiguée aujourd'hui.
Effectivement, on le sent, hein, ça.
C'est sûr.
On va revenir sur les événements qu'on a eu lieu donc, durant le mois et demi, deux mois qu'on a loupé tous ensemble. On va parler évidemment du mercato qui aura animé tant de monde, l'Australian Open, le Super Bowl qui a eu lieu ce dimanche. On va parler évidemment de la NBA, de la disparition de Kobe Bryant. Et il me semble que j'ai rien oublié. Enfin, il y a le hockey, voilà, les sports habituels, on va dire. Donc je propose qu'on parte en musique.
L'escalade.
L'escalade, évidemment. Notre plus grande chronique de l'émission, François. Et on est reparti donc du coup avec notre première chronique de l'émission. On va parler de la rentrée du football belge avec Hugo.
Oui, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Il n'y a pas que à l'IEX où les élèves sont rentrés, les clubs belges sont également rentrés de cette trêve hivernale.
Et quelle belle introduction.
Je trouve aussi. Et donc, on va commencer par le club dont tout le monde parle pour l'instant, c'est le club d'Anderlecht. Donc, la question, est-ce que Anderlecht va se qualifier pour les playoffs? Donc, on a un départ assez difficile après cette trêve, une défaite 1-2 à domicile, abrégé par le soulier d'or brugeois Hans Van Aken et un goal d'anthologie, on peut le dire.
Et pas pour des mots, c'est vrai.
Je peux couper le micro.
C'est très partial pour le coup, j'aime beaucoup. Mais vas-y, continue, je t'en prie.
Et ensuite, on a deux matchs qui, sur le plan des résultats, sont bien plus positifs. Mais au niveau des prestations affichées, ce n'est guère mieux parce qu'on a une victoire dans les dernières minutes au cercle. Un cercle qui est quand même au fond du trou. Et Anderlecht n'arrive quand même pas à dominer ce club. Et finalement, Moucron, qui est aussi assez faible en ce moment, bah, c'est Antoine Colassin qui vient sauver Anderlecht dans les derniers moments. Donc on pourrait se dire qu'Antoine Colassin, c'est le seul point.
J'allais justement dire Antoine Colassin qui s'est blessé du coup.
Justement, j'allais dire.
Oh, c'est beau là, on se comprend magnifiquement bien.
Tu lui coupes l'herbe sous le pied là, Maxence.
Mais j'adore ça. Ah, bon.
C'est pas du tout.
On pourrait penser que c'est le seul point positif des Mauves cette année. Ben, malheureusement, Antoine Colassin va devoir se faire opérer dans les prochaines semaines. Et donc, on peut dire que le club bruxellois a quand même la poisse. Et donc, je vous pose la question, qui veut parler? Est-ce que Anderlecht va se qualifier pour les PO1 cette année?
Alors selon moi, Anderlecht a des chances de se qualifier, mais elles sont très très minces. Du coup, je miserais sur une non-qualification pour les play-off 1, juste au vu du niveau de jeu affiché, parce que comme tu l'as dit, contre le cercle et contre Moucron, c'était très pauvre et ils l'ont vraiment échappé belle sur c'est vraiment deux exploits individuels au cercle de Bruges qui leur ont permis de s'imposer. Donc si tu as du mal à t'imposer contre le cercle de Bruges qui est dernier au classement et qui n'est nulle part footballistiquement parlant, vous avez admiré la rime. Et du coup, si tu joues mal contre le cercle de Bruges, tu auras du mal de jouer bien contre les grosses équipes. Après, étant supporter du Standard, je peux reconnaître que contre le cercle de Bruges, on a fait aussi un très très mauvais match.
C'est bien, tu me coupes l'air sous pied là.
Et voilà, chacun son tour, Maxence. Oui. Du coup, je te laisse la parole pour voir si Anderlecht va, selon toi, se qualifier pour les play-off 1 ou non.
Ah oui, bien sûr, sans aucune hésitation même, je dirais. Marketingment parlant, c'est un coup incroyable quand Anderlecht sera en play-off 1, donc l'Union Belge a tout intérêt à favoriser sa propre équipe. Donc, ah non, mais je parle très sérieusement, hein, donc voilà, il faut 6 grandes équipes et il y en aura 6 petites. Ouais.
Ouais, mais bon, statistiquement parlant, Anderlecht est à 4 points de Genk. Genk qui a vendu Sanderberg, on en parlera sûrement plus tard avec Sacha. Et du coup, ben, moi je vois Genk un peu tomber à l'arrêt malgré leur victoire contre Charleroi ce week-end. Charleroi qui cherchait un peu son second souffle en 2020. Donc je vois quand même de la place derrière le Standard et Charleroi. La compétition va être rude encore pour les 6 matchs qui restent, 6-7 matchs qui restent. Surtout qu'il y a un match Charleroi-Malines qui doit encore se rejouer la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et donc Anderlecht pourrait passer au-dessus de Malines. Et voilà. Donc pour moi, Anderlecht sera en playoff, mais sans Genk du coup.
Non, moi je pense justement l'inverse de toi, ce sera Genk qui y sera et pas Anderlecht, parce que vu les 6 matchs qui restent, je pense que Anderlecht perdra encore des plumes, notamment au prochain match contre la Gantoise qui sera complètement sold out. Je vois absolument pas comment Anderlecht avec son nombre de blessés pourra atteindre les playoffs 1.
Alors moi c'est juste par rapport, tant qu'on parlait du classement et des performances actuelles, et puisqu'on parlait du Standard, c'est juste simplement dire que on parlait beaucoup des places acquises, etc. Finalement, le Standard n'est qu'à 4 points. Alors, je dis pas qu'ils seront pas dans les play-off 1, mais c'est juste qu'ils ont intérêt à se réveiller assez vite au vu du calendrier qu'ils ont, parce qu'ils auront quelques grosses échéances dans les semaines qui viennent contre Bruges, contre l'Antwerp, etc. Donc, on va affronter des gros. Et pour l'instant ça a été assez pauvre, finalement presque aussi pauvre que ce qu'Anderlecht a affiché. Donc voilà, on a juste la chance avec le Standard d'avoir une avance suffisante. Pour le reste, voilà. Après pour Anderlecht, j'arrive pas vraiment à me prononcer parce qu'ils alternent le moyen et le mauvais, et c'est un peu le cas de toutes les équipes qui sont dans cette partie-là du classement. Du coup, c'est assez difficile de dire. Genk, voilà, ils ont l'air d'être sur une pente relativement ascendante. Mais qu'est-ce qui va en être avec les transferts qu'ils ont eu, etc. Donc voilà, on va un peu voir dans les semaines prochaines. Anderlecht, le problème c'est que dès qu'ils trouvent un équilibre, il y a un blessé, du coup ben, l'équilibre est rompu, donc comment est-ce qu'ils vont se relever de ça. Et Malines, c'est le bon et le mauvais comme le Standard, donc voilà, on va un peu voir.
Je vais maintenant faire un bond en avant dans le classement parce que je vais parler du leader du championnat, le club de Bruges. Donc le club, beaucoup de gens attendaient une confirmation du club de montrer qu'il dominait le championnat cette année. Je pense que sur le plan comptable, au niveau des points, ça a été fait. Un 8 sur 12 face à des équipes quand même assez relevées, c'est pas mal. Après,
je préciserai juste, je dis confirmation, mais il n'y a rien eu avant. Donc voilà. Enfin, c'était Genk l'année dernière qui était champion.
une confirmation avant la trêve de ce qui s'est passé. Oh, avant la trêve.
On parle de la rentrée, hein, pas du.
Ouais, même. J'avais pu comprendre autre chose.
Et donc, au niveau des points, c'est un 8 sur 12, c'est quelque chose de positif. Mais au niveau du jeu, on ne retrouve pas toujours le Bruges du premier tour. On a l'impression que Bruges joue par à-coups et que c'est vraiment pas le Bruges, comme on peut dire, qui régalait du premier tour. Et donc, pour moi, ça peut être aussi un point positif pour le club, parce que si Bruges parvient aujourd'hui à gagner sans bien jouer, bah, c'est peut-être ce qui montre que Bruges aujourd'hui est devenu un club qui est capable de remporter des titres, comme Anderlecht avait pu le faire il y a quelques années, quoi.
C'est vrai que Bruges est beaucoup moins dominateur qu'ils l'ont montré dans la première tranche, et on a pu voir quelques moments compliqués, mais c'est vrai qu'à chaque fois, à la différence des autres équipes qui suivent justement, on en parlait, c'est qu'il y a un ou deux joueurs qui ont su se sublimer finalement pour un match et arriver à les sortir du pétrin. Alors que collectivement, voilà, c'était pas la machine à gagner qu'on avait vu avant la trêve de Noël. Et voilà, et finalement, si on prend le match à Anderlecht par exemple, j'ai regardé le match, c'était pas du tout le meilleur match que j'ai vu de Bruges. Et voilà, on a Van Aken qui arrive à les faire gagner presque tout seul finalement, parce que le premier goal, il le doit à personne, il reprend juste une frappe du pied gauche, c'était assez magnifique, tu l'as dit. Et pour le deuxième goal, voilà, c'est une action collective, mais finalement c'est quand même lui qui est là pour terminer. Et Bruges n'a pas montré grand chose d'autre dans ce match. Je ne dis pas qu'Anderlecht a montré plus, mais c'est juste que c'était accroché, alors qu'avant la trêve, on serait bien dit, bon, Anderlecht est au fond du trou, Bruges est carrément au-dessus, et ils vont les dominer. Donc c'est vrai qu'on a du mal à retrouver ce Bruges dominateur, mais comme tu l'as dit, ils arrivent quand même à toujours gagner, ils prennent quand même les points qu'il faut, et cette petite passe à vide, finalement, est-ce qu'on peut même appeler ça une passe à vide? C'est juste qu'ils ne retrouvent pas leur meilleur niveau, mais il est quand même supérieur finalement à ce que les autres équipes peuvent proposer en face. Du coup, c'est même pas un désavantage pour le club de Bruges, vu que voilà, effectivement, pour eux c'est même un supplément de motivation, comme tu l'as dit. Ils savent qu'ils doivent retrouver du niveau, ils savent qu'ils doivent mieux jouer, et pourtant ils prennent quand même les points. Donc pour eux c'est quasiment que du positif, et on voit quand même assez mal comment ce club pourrait être dérangé, bien qu'on sache qu'avec les playoffs, la division des points par deux, etc.
Ben voilà, justement, tu parles de Bruges qui pourrait être dérangé. Ben, pour moi, le grand vainqueur de cette rentrée, c'est Gand, et je pense qu'aujourd'hui Gand est l'équipe la plus sublime pour l'instant, et Gand montre à Bruges qu'ils feront trembler la Venise du Nord jusqu'au bout et qu'ils seront encore là en playoff, parce qu'il y a 4 points et demi avec la division des points. Et donc c'est ici que ma chronique sur la rentrée de certains clubs qui ont été en vue plus que d'autres s'achève.
Ah bah d'accord, bonsoir, voilà, on reprend sans jingle encore une fois. Théo, franchement, tu nous surprends encore de soir en soir, on va dire.
Je fais tout pour te surprendre, Maxence. Non, c'est parce que notre programme, notre cher et tendre programme, rencontre quelques difficultés. Du coup, c'est compliqué pour moi d'enchaîner plusieurs trucs d'affilée. Du coup, je fais au plus simple pour que ça ressemble à quelque chose.
Effectivement, du coup, ça peut se comprendre. Et on va vite conclure du coup cette chronique de Hugo, qui va nous parler de Courtrai, quand même, qui est le club surprise, on va dire, de cette rentrée.
Ouais, voilà, je voulais aborder une petite équipe surprise. J'ai longtemps hésité avec Zult ou Waregem, mais finalement, je me suis décidé, j'ai pris Courtrai quand même.
Parce que Zult est un peu moins petite équipe surprise, parce que depuis le début de l'année, ils montent quand même de relativement belles choses, et ils arrivent à surprendre, pas à s'imposer, mais à surprendre.
C'est là où c'est moins une surprise, et c'est pour ça que mon choix s'est porté sur Courtrai. Et donc Courtrai, c'est 4 points sur 6 contre le Standard et Bruges, quand même deux ténors de notre championnat. Et c'est quand même, on peut le noter aussi, un 1-1 qui leur est favorable en coupe à l'Antwerp. Et donc je trouvais que c'était la bonne surprise de notre championnat, et au final, quand on regarde l'effectif, c'est pas forcément non plus une grosse surprise. Leur place actuelle est d'ailleurs à la 12e place, je le rappelle, peut-être une surprise, parce qu'on a quand même d'anciennes gloires. On a Mboyo, Kagé, Dessart, donc des gars qui ont quand même fait plus que leur preuve dans notre championnat, même Imo Ezekiel au Standard il y a quelques années. Donc c'en est tout pour ma chronique sur le football belge, et je laisse la parole à François.
Et François qui va nous parler donc du hockey en Pro League. Ça a commencé quand, François, ça?
Mais ça a commencé en tout début d'année. En gros, la Pro League, pour rappel, c'est une compétition qui n'a absolument rien à voir avec les championnats du monde ou la Coupe d'Europe. C'est... Merci. C'est donc une compétition qui regroupe les 9 meilleures nations masculines et féminines dans un tournoi, donc dans un championnat où on va se rencontrer en match aller-retour. Et alors les 4 premiers seront qualifiés pour les play-offs qui se joueront dans une ville précise. Pour cette année, c'est pas encore précisé. L'année passée, c'était à Amsterdam et la Belgique avait perdu en finale contre l'Australie. L'Australie et la Belgique, ce sont les deux équipes qui se jouent la première place du classement mondial, en tout cas chez les messieurs. Et donc, du coup, les messieurs et les dames, les Red Lions et les Red Panthers, ont débuté leur périple en allant en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est commun aux deux. La Belgique, les messieurs ont engrangé 3 victoires et un nul, alors que les dames ont engrangé un nul, une défaite et 2 victoires. Donc c'est quand même un bilan assez positif pour les dames qui doivent quand même essuyer la désillusion de la non-qualification pour les JO. Avec une équipe restructurée, il y a quand même 3 nouvelles jeunes qui ont intégré le noyau, dont une dont on va recevoir bientôt, dans 2 semaines, je vous annonce déjà.
Oh là là, le teasing.
Oui. Pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines, elle va me confirmer, mais on recevra Lucie Brenn, qui est défenseuse des Red Panthers, et elle nous amène même un petit cadeau.
Oh là 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 là.
Enfin soit, donc elle fait partie des nouveaux visages, on va dire, des Red Panthers. Elle avait déjà compté 2 sélections l'année passée à la Pro League, mais elle est rejointe cette année par des joueuses comme Alexia Tser-Stevens, Charlotte Englebert ou encore Justine Razir, qui sont des petites jeunes nées en 2000, je crois, des Bruxelloises, quoi. Pour les messieurs, rien de spécial. On s'attendait à rien qu'à ça, quoi, à des victoires en Australie, une victoire, un nul. C'est bilan accompli, mission accomplie.
Ouais, j'allais dire, il y a les JO qui arrivent, donc forcément, ils doivent commencer à monter en puissance, je suppose.
Ouais, et petite anecdote, donc les Belges, pour préparer ces JO, sont partis 2 semaines à l'avance en Australie et ils sont partis à 32. Donc en gros, ils avaient donc les Red Lions, on va dire, habituel, et alors il y avait alors je sais plus comment ils ont appelé ça, mais
un noyau
élargi, exactement, avec les Young Red Lions, donc une partie des U21 qu'ils ont pris sur leur aile pour donc intégrer déjà l'après JO, parce que il y en a beaucoup pour qui les JO seront leur dernière compétition pour les Red Lions.
Tu as des noms par exemple?
Je pense à Thomas Brils, Félix Denayer, Vincent Van Hache. À mon avis, après les Jeux, ils arrêteront sûrement l'équipe nationale. Mais après, il y a toute une génération qui joue au haut niveau depuis qu'ils sont tout petits. Je pense au Waterlotti, William Le Guillain, Maxime Van Oost, qui sont vraiment déjà au top et qui, pour moi, pourraient déjà avoir leur place en équipe nationale. Et voilà, donc pour la suite, la Belgique, elle, s'est envolée, a quitté la Nouvelle-Zélande et s'en est allée en Inde pour aller jouer 2 rencontres en Inde. Les filles devaient continuer leur périple en Chine, mais à cause du virus, ces matchs ont été annulés. Elles sont donc de retour plus vite que prévu. Et voilà, donc on doit attendre mars-avril avant d'avoir des rencontres chez nous. On en profite donc pour jouer dans l'hémisphère sud, là où il fait chaud, et on viendra en Europe un peu plus tard dans l'année. Donc tout le monde se déplace en Inde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine. C'est maintenant qu'on y va, et alors ils vont tous légèrement aller vers l'Australie et puis revenir en Europe avec l'Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne. Évidemment, oui, c'est pas l'Angleterre, c'est la Grande-Bretagne, vu qu'on joue pour vu que le gagnant de ce tournoi a quand même une place au JO. Donc on parle de Grande-Bretagne et voilà, c'est ce qui clôture un peu la chronique. Je regarde
la chronique sur la Pro League, d'accord.
Je crois que j'ai rien oublié.
Et donc juste une dernière question avant de lancer en musique, comment ça va se passer au niveau du programme des joueurs par rapport au club, parce que voilà, on connaît pas trop maintenant comment ça se passe.
Mais c'est un grand problème qu'il y a ces dernières années, c'est les joueurs sont de plus en plus demandés en équipe nationale et ils ont de moins en moins de temps pour le championnat, mais inversement, on a beaucoup moins de temps pour jouer des rencontres de championnat. Il y a toujours l'équipe nationale qui a des activités à gauche, à droite, surtout avec la Pro League, qui c'est sa deuxième saison seulement de cette compétition. Et voilà, par exemple, ça empiète énormément sur le championnat indoor, On en parlera plus tard dans l'émission, mais en gros, ben, en hiver, on joue en salle. C'est un championnat tout à fait différent, mais il y a des joueurs qui savent jouer et dehors et dedans. Et malheureusement, ben, avec cette Pro League, ils doivent faire l'impasse sur l'indoor. Et ça réduit un peu le niveau du championnat indoor, parce que par exemple, des joueurs comme Tom Bone sont aussi incroyables en salle. Et on peut plus les admirer. Et là, c'est le problème de la Belgique, c'est qu'on est en retard. On l'a vu au championnat d'Europe indoor. La Belgique a terminé s'est sauvée à la limite. Enfin, c'était à deux doigts de descendre en division 2.
Et ça, on en reparlera effectivement plus tard dans l'émission.
Exactement. Mais là, on est en retard sur des nations comme l'Allemagne, qui a deux équipes nationales complètement différentes. Donc maintenant, les joueurs qui jouent dehors ne peuvent plus jouer en salle et inversement. Et la Belgique prend seulement le pas là-dessus. Même si on est au top dehors, il faut maintenant avancer en salle. Mais ça, on en reparlera dans une petite heure.
Ah, mais juste après, là, c'est...
Sport Hub, on retourne l'actualité sportive.
Et on est parti pour la deuxième chronique déjà de cette... Non, troisième, déjà, j'en perds déjà mon compte tellement on s'amuse et on s'informe ce soir. On va partir sur le Super Bowl. Quand je vous parle de bière à 13 euros, qu'est-ce que vous pensez? On pense Super Bowl évidemment.
Je pense à la place à 6500 euros et un mec pose sa sieste.
Oh là là, ça c'est vraiment de l'événement sportif hein, qu'on vous propose ce soir.
Ah oui, hein. Bon, on va être un peu plus sérieux sur le sport. Et donc, la saison NFL s'est terminée ce week-end par donc le célèbre Super Bowl avec la place la moins chère à 5000 euros, il me semble. C'était une histoire comme ça. Donc, qui était joué pour la 54e fois de l'histoire. Cette finale qui a vu s'opposer les Kansas City Chiefs contre San Francisco 49ers et qui s'est conclue par la victoire des Chiefs 31 à 20. Oui, on est content pour eux, moi aussi. Donc, une nouvelle remontada de la part du head coach Andy Reid et de ses joueurs qui ont pu compter sur une nouvelle performance du quatrième quart-temps de principalement Patrick Mahomes et le running back qu'on n'attendait pas, Damien Williams, avec deux touchdowns, dont le dernier qui a mené à la victoire sûre. Mais pour arriver à cette finale, donc les deux équipes ont d'abord eu à affronter la saison régulière. Et la petite anecdote de début, c'est que les experts américains en début de saison pronostiquaient ces deux équipes n'allant même pas en play-off, les voyant même bas de classement. Et pour finir, bah voilà, elles se sont retrouvées en finale. Donc, avec la rage de vaincre des 49ers de San Francisco qui ont réalisé un des meilleurs débuts de saison, en tout cas de leur franchise, avec 8 victoires et 0 défaites pour commencer, sachant qu'il n'y a que 16 matchs en saison régulière. Donc ça fait la moitié, ça fait 50%.
C'est très honnête, on va pas se mentir.
C'est très honnête. Même les Patriots n'ont pas fait ça. Alors, du côté des Chiefs, la saison par contre a été un petit peu plus mitigée. Mais les playoffs, eux, bah, ils ont fait taire toutes les critiques avec 3 remontadas. Donc à chaque tour de playoffs, une remontada. Et celle que moi je retiendrai, même si à la victoire du Super Bowl, ce serait plutôt la première, où ils perdaient donc 21 à 0. Et ils sont remontés pour gagner 51 à 31. Et donc, les chiffres, c'est que c'est le plus grand nombre de points marqués dans un match de play-off. Et c'est aussi la plus grande remontada des play-offs.
Préciser qu'un touchdown vaut 6 points, plus la conversion, qui est rarement ratée, vaut 1 point de plus, donc 7 points. Donc, ils avaient quand même 3 touchdowns de retard et... ils en ont fait quelques-uns.
Et les touchdowns, c'est compliqué. Hein. Bah, ceux qui ne connaissent pas.
Généralement, ouais.
Avec essayer. La conversion, avec les.
C'est
les
pas un panier au basket, quoi.
Non. Bon, alors. Merci pour le point technique. Donc, après, il y a d'autres petites surprises. Il y a aussi l'arrivée des Tennessee Titans en finale de division contre les Chiefs, qu'ils ont perdu avec une remontada. Et qui ont donc éliminé les Patriots, ceux qui sont pour beaucoup de non-connaisseurs de la NFL, comme pour les connaisseurs de la NFL, ceux que tout le monde est ou aime pour leur façon à aller en finale presque tous les ans depuis 5-6 ans. Et donc oui, les Titans les ont éliminés, et donc c'est là qu'est la surprise, hein. parce que on s'attendait tous à avoir une énième fois les Patriots en finale, et pour finir, bah, ils se sont retrouvés éliminés dès le début. Sinon, pour le reste des équipes, il n'y a pas réellement de surprise. Tout le monde s'est retrouvé plus ou moins, on s'y attendait. Et donc, je vais finir cette partie de chronique par des petites anecdotes. Donc, ça faisait 50 ans. Donc, le Super Bowl existe depuis 54 ans, et ça fait 50 ans que les Chiefs n'avaient plus remporté de Super Bowl, ce qui est donc très long. C'est à peu près à l'histoire des Cleveland Cavaliers du côté de la NBA qui n'avait jamais gagné de championnat en 45 ans. Après Patrick Mahomes, donc le quarterback, donc celui qui fait les longues passes pour ceux qui ne connaissent pas la NFL, c'est le premier joueur à avoir un titre de MVP et remporter un Super Bowl durant ses deux premières saisons de NFL. C'est donc extraordinaire. Et par rapport à ce qu'on avait discuté hier, pour l'audience en termes de téléspectateurs pour le Super Bowl, donc c'était 102 millions d'Américains qui ont regardé. C'est donc une hausse de 3 millions de téléspectateurs par rapport à l'année passée. Et c'est le meilleur score d'audience sur les 3 dernières années.
En même temps, quand on voit Shakira à la mi-temps, ça attire du monde. Non,
il y a eu une hausse de 3 millions de personnes pendant la mi-temps. Ça aussi. Et puis, donc, aussi par rapport aux chiffres, donc, en France, il y a eu 408 000 téléspectateurs, c'est donc aussi pas mal pour un sport pratiquement que américain. Voilà, je finis ma chronique là-dessus.
Air Live, fais sa rentrée.
Et pendant qu'on se regarde les Anges 12 avec Thibaut juste à mes côtés, on va lancer le mercato international avec Sacha.
Yes, du coup, moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui pour revenir un peu sur cette actualité finalement business et financière du mois de janvier, ce qu'on va faire en fait, c'est un petit gagnant et perdant du mercato international. Du coup, c'est totalement subjectif, c'est simplement mon avis, voilà, de ceux que je pense qui peuvent être un bon coup, soit pour le joueur, soit pour le club. Et à l'inverse, ben, ceux qui du coup ont bien raté leur mercato. Alors on va commencer tout de suite avec les gagnants, et je vais commencer par une des petites sagas de ce mercato et un peu du mercato d'avant, qui était Eriksen, qui est donc parti à l'Inter pour 20 millions alors qu'il ne possédait plus que 6 mois de contrat avec Tottenham. Donc le Danois de 27 ans finalement s'en va quitter le club anglais pour la Serie A et l'Inter. Et voilà, c'est la fin du feuilleton après quelques semaines, voire quelques mois. Et finalement, on peut dire que toutes les parties se retrouvent un peu gagnantes. Donc tout d'abord l'Inter, parce que l'équipe recrute là un meneur de jeu qui est absolument expérimenté et assez talentueux. Et sa tâche sera d'alimenter Lukaku et Lautaro Martinez en caviar de toutes sortes pour essayer de faire gonfler les scores. Donc c'est une plutôt bonne pioche pour l'Inter, qui ça peut être une bonne recrue pour eux. Son rôle devra être d'un peu concurrencer Brozovic, qui pour l'instant occupe cette place de meneur de jeu. Tottenham, son ancienne équipe, donc évite le pire, à savoir un transfert libre en juin prochain, puisque je rappelle qu'il n'avait plus que 6 mois de contrat, et ça aurait été assez dommageable pour le club londonien en vue de la valeur marchande du Danois. Et enfin Eriksen, lui, quitte une équipe qui est pour l'instant en demi-teinte en championnat malgré l'arrivée de José Mourinho un peu plus tôt dans la saison. Et voilà, Eriksen ne trouvait plus vraiment sa place. On savait qu'un transfert était dans l'air, et on sentait qu'il était plus vraiment la tête à Londres. Et qui plus est, financièrement, il a eu une très belle prime à la signature, et deux, son salaire est plus que doublé ou triplé, je ne sais plus quel est le score. Enfin bref, il gagne bien mieux sa vie maintenant. Donc voilà, tout le monde est gagnant.
Au niveau du climat, on va pas se mentir qu'il y a quand même mieux.
Oui, voilà, au niveau du climat, c'est un peu moins mouillé, c'est beaucoup plus sympa en Serie A.
Au niveau des femmes aussi.
Merci Hugo. On continue en Italie en Serie A avec l'autre Milan, le Milan AC, où ça a pas mal bougé. On va commencer par l'arrivée de la star Zlatan, qui en fin de trentaine n'en finit plus d'épater et qui revient dans son ancien club. Je vois François, grand supporter, qui tape fièrement le cœur. On sent que Zlatan, ça fait plaisir, et c'est ça la seule chose que j'avais à dire finalement, parce que Zlatan, bon, on sait qu'il s'est toujours marqué des buts, on sait qu'il commence à vieillir, mais il reste assez incroyable. Zlatan reste Zlatan, rien que pour l'aspect commercial, c'est bien de l'avoir, parce que niveau communication, il est juste hyper fort. et sur le terrain il prouve encore qu'il a sa place. Donc ça faisait plaisir, un pour les tifosi du Milan. Oui François.
Mais je pense que ça fait aussi un grand boost à toute l'équipe quand on entend certains joueurs le disent que Zlatan dans l'équipe c'est lui qui encourage toute l'équipe à travailler à l'entraînement. Et je pense que c'est vraiment l'homme qu'il fallait sur tous les plans.
Il n'y a rien à faire, il a de l'expérience, il a gagné énormément dans sa carrière et il a une mentalité de gagnant, pas toujours exemplaire mais de gagnant. Et ça a pas mal bougé au Milan AC, mis à part ça on a Piatek qui a quitté un autre attaquant de pointe qui avait
Oui, en parlant de Piatek, il a déjà marqué son premier but pour son nouveau club.
Exact.
Là, je te coupe l'herbe sous le pied encore une fois.
Exact. Donc Piatek, parce que vous allez vous demander quel est son nouveau club. Eh ben, effectivement, ça c'est quoi son nouveau club. Donc Piatek, il a quitté le Milan AC pour 22 millions d'euros et il a rejoint le Hertha Berlin, n'est-ce pas? Et il a donc déjà marqué effectivement. Piatek qui n'était plus en état de grâce malgré une très bonne première saison au niveau du Milan AC, on ne sait pas trop pourquoi il s'est éteint progressivement, mais la flamme repart du côté de l'Allemagne. Et autre transfert du côté de l'Allemagne au même club, on a Toussard au Hertha Berlin qui a été transféré pour 25 millions depuis Lyon, bien qu'il ait été directement reprêté dans la foulée à Lyon jusqu'à la fin de saison. On a vu pas mal de ça pendant ce mercato hivernal, c'est les clubs achètent mais les reprêtent directement et ils l'auront en juin. Et pour finir avec le Milan AC, on a Souza qui est parti vers Séville. François poussera un soupir de soulagement parce que les supporters ne l'aimaient vraiment plus. Et c'est le départ qui a permis l'arrivée de Salemakers, le joueur belge. Mais tout ça, on en parlera après dans le mercato belge, bien évidemment. Alors, avant-dernier petit gagnant de ce mercato, Carrasco. Parce qu'on va parler un peu belge à un moment donné. Maxence, je m'en fous. Le temps, à un moment donné, on est là pour parler sport. Donc on mettra une petite pub entre les gagnants et les perdants. On va mettre un peu de musique et puis j'arriverai avec les perdants. Donc Carrasco, on est en Belgique. On n'est pas en Belgique, mais c'est un joueur belge. Il a un prêt avec option d'achat à ses premiers amours, l'Atlético de Madrid. Donc effectivement, dans les derniers instants du mercato, Carrasco a signé à l'Atlético Madrid et ça pourrait se révéler un coup de maître dans la course à l'Euro, car le Belge donc était au Dalian Yifeng, un club chinois, et au vu de la concurrence dans le groupe des Diables, il semblait important pour lui de retrouver un championnat au niveau un peu plus élevé pour faire partie de la sélection. Et donc le Diable revient dans un club qu'il avait quitté en janvier 2018. Donc 2 ans plus tard, il revient à l'Atlético. Et maintenant la seule question qui reste est de savoir s'il va réussir à s'imposer dans le 11 de base de Diego Simeone, avec qui il ne semblait plus être en odeur de sainteté lors de son départ en 2018. Du coup qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a eu des discussions avant? On ne sait pas trop. On verra un peu plus tard. Il est monté ce week-end lors du derby madrilène. Il a joué une petite quinzaine de minutes. Il n'a pas fait pencher le score pour l'Atlético, donc défaite 1-0. Mais il a montré quelques belles choses. On verra un peu dans les semaines qui viennent. Et enfin, mon grand gagnant, c'est Haaland, évidemment. Et ça pour tout le monde, aussi bien pour Dortmund, son nouveau club, que pour le joueur. Donc transféré 20 millions, ce qui me semble être un prix très honnête pour ses stats. Donc qui est-ce finalement ce Erling Haaland? C'est un jeune joueur de 19 ans. Il est né le 21 juillet 2000, il est norvégien, il fait 1m94, il est attaquant et gaucher, n'est-ce pas? Le public belge l'a finalement certainement découvert lors d'un match de Champions League face à Genk, où il avait absolument martyrisé la défense du champion de Belgique avec un triplé et une défaite 6-2 à Salzbourg, son ancien club. Donc, en stats, Haaland, durant la saison 2019-2020, donc l'exercice en cours, c'est en Bundesliga autrichienne avec Salzbourg 16 buts et 6 passes décisives en 14 matchs. En Coupe autrichienne 4 buts en 2 matchs. En Champions League avec Salzbourg, puisqu'il n'a encore joué qu'avec Salzbourg, 8 buts et 1 passe décisive en 6 matchs. Il a été transféré donc début janvier à Dortmund. En Allemagne, il a 3 matchs au compteur, déjà 7 buts et 1 passe décisive. Hier, il a marqué son premier but en Coupe d'Allemagne face au Werder Bremen, défaite 2-3 de Dortmund, mais bref, quand même un but pour Haaland. Et du coup, en tout, sur la saison en cours, Haaland, c'est 36 buts et 8 passes décisives en 26 matchs. soit un but toutes les 46 minutes. Donc il est presque à un but par mi-temps, ce qui est absolument fou. Et en parlant de record, le jeune prodige en avait déjà établi un au mondial des moins de 20 ans en 2019. Il avait marqué 9 buts lors de la victoire de son équipe face au Honduras. Une victoire qui s'était soldée sur le score fleuve de 12-0, qui est également ce qui est également un record dans cette compétition. Donc voilà, c'est un phénomène tout simplement. Et il est assez prometteur. Moi je trouve que le prix de 20 millions est très très honnête finalement. On va en débattre juste dans 2 secondes. Et Dortmund, juste pour terminer avec ce club, s'est également renforcé avec la venue d'Emre Can, l'international allemand expérimenté milieu qui vient de la Juventus, où finalement il ne jouait plus beaucoup. Il y avait des interventions, ou c'est juste pour dire qu'on doit partir?
Oui, non, c'est une mini intervention pour dire qu'en fait 20 millions c'était sa clause libératoire, et c'est pour ça qu'ils ont payé que 20 millions. Je pense que s'ils le revendent, ils vont faire une belle plus-value.
Ah oui, la plus-value va être immense.
Et justement, non, parce qu'il y a une clause libératoire également, et à peu près à 80 millions d'euros dans le contrat. Voilà, c'était juste pour préciser.
Ok.
Et vite lancé sur Hugo, du coup, qu'il a vu jouer en vrai, ça donne quoi, Haaland?
Oh, c'est magnifique, hein. Il rentre, il marque, c'était génial. Mais j'avais juste une petite remarque. J'ai lu récemment que Haaland était venu en Belgique avant de signer à Salzbourg. Il avait des contacts avec Genk et le club de Bruges. Donc une nouvelle fois, les clubs belges sont passés à côté
d'une très belle pioche. Très belle pioche.
Un sacré gamin, comme on va dire.
Exact, l'enfant terrible du football
norvégien.
On
se retrouve donc avec les perdants cette fois-ci. Donc on se retrouve avec les perdants de ce mercato. Il y en a eu des nombreux, on en parlait déjà durant le mercato d'été. Ils ont été une nouvelle fois déçus de ce mercato-ci.
Exact. Donc on va. Et encore une fois, c'est subjectif et non exhaustif. Et donc pour les perdants de ce mercato, je commencerai par un Belge, Batshuayi, qui est sur le banc de touche à Chelsea et qu'on a cité dans quelques clubs. On savait que une nouvelle fois, comme pour Carrasco, pour espérer avoir plus de chances de sélection à l'Euro, ce serait bien qu'il bouge et qu'il joue un maximum. Malheureusement pour lui, il reste à Chelsea après ce mercato hivernal, où il est toujours sur le banc de touche. Donc voilà, pour Batshuayi, ben, soit espérer un changement dans la hiérarchie, soit une petite blessure, même si c'est jamais ce qu'on espère pour ses coéquipiers, parce que ben, pour le moment Lampard le laisse sur le banc de touche. Alors, c'est très sensuel ça, François.
Oui, yes. Il y a des choses qui ne doivent pas se dire en direct, hein, comme on dit.
Néanmoins, on continue, je ne me laisse absolument pas perturber. Cavani, qui a été le feuilleton hivernal raté finalement, lui aussi devait partir à l'Atlético comme Carrasco. Finalement, ça ne s'est pas fait parce que le PSG a refusé de céder aux avances du club madrilène, estimant que les offres n'étaient pas assez élevées. Et Leonardo, le directeur sportif, a été absolument intransigeant sur cette matière-là, même si Cavani, en tout cas son entourage, avait exprimé dans la presse son envie de partir, son envie d'ailleurs. On sentait une rupture un peu se préparer entre Cavani et le PSG, mais finalement il restera bien là, où il est pour l'instant barré par Mauro Icardi, Kylian Mbappé et les autres, bien qu'il reste une des coqueluches du public. Il y a également Bale et James Rodriguez du côté du Real Madrid. Les deux étaient cités dans des clubs comme Tottenham, où Rodriguez était également cité à Everton. Il n'en est rien, il reste au Real, où il ne joue pas beaucoup, en tout cas pour James Rodriguez, bien que Zidane ait annoncé pour Bale qu'il comptait sur lui. Après, on remarque quand même qu'il sert plus de dépannage qu'autre chose. Donc voilà, deux joueurs encore avec un talent assez certain qui restent sur le banc de touche, c'est assez dommage. Et on terminera ces petits flops par une anecdote de Cédric Bakambu, qui s'est cru au Barça pendant assez peu de temps, car son transfert a finalement été annulé par le Barça alors que le joueur était déjà dans l'avion. Donc grosse désillusion pour ce joueur, c'est vraiment pas de chance. Et une toute dernière chose, c'est pas un perdant, c'est pas un gagnant, c'est un entre-deux selon moi, c'est Mertens, qui n'était plus en odeur de sainteté du côté de Naples, où il y a eu des gros clashs avec la direction, avec le président, De Laurentiis. Et on s'attendait à un transfert pour Mertens dès ce mercato hivernal, Mertens qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Et au vu de la situation, voilà, on pouvait croire qu'un transfert serait négocié assez rapidement. Il a été cité du côté de Chelsea, à l'Inter, dans un peu tous les clubs. Et finalement, il reste à Naples. Et je dis que c'est un entre-deux, parce que ben, si même sportivement, ce sera peut-être pas la meilleure chose, il lui reste donc 6 mois pour un peu moins de 6 mois pour battre le record de Marek Hamšík de 121 buts. Il n'est plus qu'à 3 buts pour dépasser le Slovène ou le Slovaque ?
Slovaque.
Slovaque. Et donc voilà, c'est un entre-deux pour Mertens parce que ce petit moment de répit lui permettra peut-être d'entrer définitivement dans la légende du club du pied du Vésuve, et ça, ce serait vraiment chouette pour lui. Et on va partir avec un dernier perdant, mais cette fois-ci, c'est pas moi qui vais vous en parler, car le perdant, c'est pas un joueur, c'est tout un club, c'est le Barça, et c'est Maxence qui va vous en parler.
Évidemment, je vais vous parler du FC Barcelone. J'aurais bien aimé vous parler du magnifique football proposé par Quique Setién, le football tiki-taka qui est enfin de retour. Mais non, je vais vous parler de la crise, malheureusement, qui a lieu au Barça depuis quelques années déjà et qui s'est intensifiée ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc, il faut savoir que Bartomeu, qui est le président du Barça depuis 2014, est détesté par la plupart des supporters. Et donc, du coup, l'enjeu principal de Bartomeu maintenant, c'est les élections en 2021, puisque voilà, tous les 7 ans, on doit réélire un nouveau président au FC Barcelone, un fait rare dans le football belge, dans le football tout court, pardon. Et donc, l'enjeu principal est toujours là, et il va rester là, et c'est important de l'avoir en mémoire. Et un élément déjà crucial, c'est le 16 juillet 2018, lorsque Juan Villa, le mentor des Xavi, Iniesta, Piqué ou Messi, c'est un des formateurs de la Masia, donc de l'académie du FC Barcelone, va quitter le club. Et donc suite à évidemment des désaccords avec la direction. Et ça va être le premier pas vers un déséquilibre dans le club, puisque voilà, forcément les cadres vont vouloir le soutenir et la direction est donc la licenciée. Cet été, on a également eu le transfert de Antoine Griezmann, détesté par Lionel Messi. Jamais officiellement évidemment, mais ça se voit sur le terrain. Au lieu de Neymar, bon... On va pas se mentir, au niveau de la qualité des joueurs, il n'y avait pas question de débat. Le 13 janvier, on a eu donc finalement Ernesto Valverde qui a été licencié. Également, peut-être à tort ou à raison, ça va dépendre de chacun. Hein. Deux remontadas en Ligue des Champions, une débâcle contre Valence en finale de Coupe du Roi. Chacun se fera son avis sur la question. Mais en tout cas, il est soutenu par Messi, par Busquets, par Gérard Piqué, donc les cadres du club, les grands joueurs, on va dire, contre plutôt les petits jeunes, Frenkie de Jong qui vient d'arriver, Arthur. Tout ça, c'est officieux, on le rappelle. Et donc tout ça, ça mène encore un peu d'animosité dans cette relation entre la direction et les joueurs. Et donc la nomination de Quique Setién, qui est le nouvel entraîneur du FC Barcelone. On n'a aucun avis sur l'entraîneur, on laissera le temps... se crée un avis lui-même. Et on a eu hier donc un clash entre Messi et Abidal qui avait déjà été clashé par Xavi plus tôt, puisqu'en fait Abidal a une des... Oui,
Abidal qui est le directeur sportif du club.
Oui, tu as bien fait,
parce qu'il n'est plus joueur, hein, Abidal.
Effectivement.
Pour ceux qui nous suivraient et qui seraient un peu décalés, Abidal est directeur sportif du FC Barcelone.
Tu as bien fait de préciser. Donc il avait une interview hier dans la presse chez Sport et chez Mundo Deportivo, donc les journaux espagnols. Oui, donc voilà, il devait débattre voilà, sur le mercato du FC Barcelone et sur la saison en cours, où notamment il aurait déclaré que les joueurs ont demandé le départ d'Ernesto Valverde, car selon les joueurs, hein, toujours, il n'y aurait pas assez d'entraînement. Et Messi évidemment n'était pas du tout d'accord avec ça. Et pourtant Messi est pourtant un joueur assez calme en général, on dirait. Il règle plutôt les problèmes en interne. Mais là sur Instagram, il s'est assez lâché et a quand même déclaré qu'il n'aimait pas ce genre de choses, mais qu'il doit être. Il pense que chacun doit être responsable de son travail et assumer ses décisions. Les joueurs, nous sommes les premiers à reconnaître quand nous ne sommes pas bien. Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu'ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms, parce que sinon, on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies. Voilà, la direction a un sérieux problème en tout cas à gérer pour le moment. Voilà, on parle quand même de Lionel Messi, la légende du club. C'est pas non plus n'importe qui. Forcément, avec tous les événements que j'ai pu ressasser dans le passé, la fissure était déjà là, mais elle s'est effectivement aggravée. Pour ce qui en est de cette affaire, notamment entre Abidal et Lionel Messi, le président doit prendre une décision dans les prochains jours, et en fonction des médias, certains disent qu'il va être licencié, d'autres pas du tout. On parle même d'une réunion romantique ce soir à l'hôtel entre Abidal et Lionel Messi. Je me réjouis de voir ce que ça va donner. Et comme je l'ai rappelé en début de cette chronique, l'enjeu principal, c'est toujours les élections de 2021. Et aussi un autre enjeu que je n'ai pas précisé, c'est le contrat de Lionel Messi qui prend fin le 30 juin 2021, donc pas cette saison-ci mais l'année prochaine. Et déjà de nombreux clubs ont contacté, dont notamment Manchester United, Manchester City, le Bayern de Munich, le Paris Saint-Germain, etc. Donc on contacté le père qui est l'agent de Lionel Messi, et on va voir ce que ça va donner dans le futur. Mais il y a véritablement deux camps qui ont commencé à se créer dans ce club, le clan des cadres de Lionel Messi notamment, et de Bartomeu qui soutient partiellement, on va dire, son directeur technique Abidal, voilà, il y a toute la politique qui suit derrière, et on verra bien s'il sera réélu en 2021. Donc Je sais pas si vous avez un avis sur le FC Barcelone, la situation actuelle. Oui.
Bah du coup, et pour arriver en complément de toutes ces informations qui finalement sont assez extra sportives, de problèmes entre la direction et les joueurs. Voilà, on voit que Messi élève la voix contre Abidal quand celui-ci essaye d'effacer ses responsabilités dans le licenciement de Valverde finalement. Il y a aussi quelques petits problèmes sportifs qui se posent, étant donné que le FC Barcelone doit faire face à la blessure de longue durée de Luis Suarez et d'Ousmane Dembélé, donc deux attaquants, alors que le Barcelone n'a rien fait sur au niveau transfert entrant. Par contre, niveau transfert sortant, on a eu quelques jeunes joueurs, n'est-ce pas, du cru Maxence, qui ont fui finalement le club.
J'ai bien fait de mentionner, j'ai oublié effectivement de préciser cette information qui fait aussi partie effectivement de la crise du Barça, c'est tous les jeunes. À peu près tous, hein. Il manque quand même Ricky Puig, la pépite. Tous les autres jeunes en sont partis, hein. Donc on a Abel Ruiz qui est parti au Sporting Portugal, on a Oriol Busquets qui était déjà parti, Miranda qui était déjà parti au mercato d'été. Ce mercato aussi, on a eu également
on a eu Carles Pérez à la Roma, on a eu Todibo à Schalke.
Oui,
En été, on a eu aussi Xavi Simons qui est parti au PSG.
Oui, mais lui c'est pas un crack. Donc on peut l'oublier.
À voir.
C'est clairement un produit marketing, c'est un abus ce joueur, mais bref, c'est mon avis.
Il y a Moussa Wagé aussi
qui est parti à Nice cet hiver. Effectivement, donc ça faisait partie des nombreux désaccords entre la direction et les cadres. C'est que voilà, maintenant la Masia, qui était pourtant réputée mondialement comme le meilleur centre de formation, maintenant on l'utilise plus. On voit les joueurs dès qu'ils arrivent dans le noyau A, on sait pas comment les intégrer. Et forcément ça fait tâche lorsqu'on parle du FC Barcelone.
Et peut-être aussi que c'est un des éléments qui énerve Messi, parce que finalement, ben voilà, le FC Barcelone qui joue encore en championnat et en Champions League se retrouve avec trois attaquants pour terminer la saison, à savoir Messi, Griezmann et Ansu Fati, qui est un joueur de 17 ans qui ne fait même pas encore partie du noyau A officiellement. Donc voilà, ça pose quand même un peu problème au vu du standing du club et des compétitions qu'il a encore à disputer, sachant qu'en Liga ils sont pour l'instant derrière le Real Madrid et que en Champions League, bon là ils sont opposés à Naples, je ne dis pas de bêtises, et puis voilà, s'ils veulent continuer ça va être compliqué, et du coup voilà, étant donné que Abidal est la personne qui est censée gérer ces problèmes là peut-être que voilà, Messi a un petit message à lui faire passer, que bon voilà, si chacun a son boulot à faire et que lui ne l'a peut-être pas bien fait, en tout cas selon le champion, parce que bah voilà, le fait est que bah, le Barcelone doit terminer la saison à 3 devant quoi.
Ah, c'est dur effectivement, et comme tu le précises, 3 devant, mais à l'heure actuelle même il n'y a plus que 16 joueurs qui sont disponibles si on ne compte pas le noyau B, donc voilà, ça fait assez très peu pour à l'entraînement, les matchs 8 contre 8 ça doit être assez compliqué pour s'entraîner au haut niveau, comme on va dire.
Sportub, on retourne l'actualité sportive.
Il est temps de faire notre petit point NBA hebdomadaire, donc on peut couper tous les micros sauf celui de Nathan évidemment et moi.
Yes, I.
Ouais, et malheureusement, on a eu un triste incident qui a eu lieu fin janvier, le décès de Kobe Bryant, une légende du basket. Et on n'a rien préparé. Nathan, tu vas nous parler à cœur ouvert de ce tragique incident.
Oui, bah alors je vais commencer par comment j'ai découvert ça, hein. Parce que j'ai découvert ça de façon totalement inattendue, c'est-à-dire que j'étais tranquillement dans ma chambre quand je suis descendu et que mon père m'a dit « Tu as vu ce fameux joueur de basket qui est mort ?» J'ai fait « Attends, de quoi tu me parles là ?» Je n'étais absolument pas au courant. Et puis il m'a montré et je me suis rendu compte qu'en fait ce n'était pas n'importe quel joueur de basket, mais c'était Kobe. Et bah Kobe en fait c'est un peu le joueur qui m'a donné envie de jouer au basket, même si je suis pour l'équipe concurrente des Lakers, hein, faut bien s'en rendre compte. Mais c'était par ses prestations, par son histoire, c'est quand même un joueur qui a marqué la ligue et qui a marqué tous les États-Unis. Comme beaucoup de reportages ont pu le montrer et l'ont à chaque fois répété, ce qui était assez énervant de tout le temps répéter la même chose. Mais on peut retenir beaucoup d'infos sur lui, comme ses 80 points au Madison Square Garden, il me semble, ou ses 61 points, je ne sais plus. Bref, plein de scores comme ça. Donc les 80 points qui sont le deuxième plus haut score marqué par un joueur dans l'histoire de la NBA. On a eu plein d'émouvants Allez, je ne trouve plus mes mots maintenant.
Hommage.
Hommage, voilà, merci. Je ne trouvais plus mes mots. Donc on a eu plein d'hommages, dont celui je pense qui m'a le plus marqué, c'est la bête Shaquille O'Neal, qui deux jours après l'annonce du décès de Kobe, se retrouvait sur NBA TV pour rendre hommage avec d'autres stars du basket de l'époque. Et où Shaquille nous explique que depuis le dernier match de Kobe, c'est-à-dire en 2016, il ne lui avait plus parlé pendant de longues conversations. Et il s'est rendu compte à quel point c'était quelqu'un qui avait compté pour lui. Et on a pu voir la bête pleurer. Ce qui, bah, franchement, est très étonnant hein, quand on voit le mastodonte. Mais donc, tous les hommages étaient comme ça, où on pouvait se rendre compte de la personne que c'était, humainement comme sportivement. Et je vais m'arrêter là, ou sinon je vais commencer à pleurer comme le jour où j'ai appris sa mort. Hein.
Ah, malheureusement, c'est une triste nouvelle pour le monde du basket qui a eu du mal à s'en remettre. Et c'est toujours le cas, malheureusement. Donc, on a le All-Star Game qui va arriver. Il y aura un grand hommage, effectivement. Ils ont un peu remanié le match officiel entre les meilleurs joueurs. Voilà, pour ou contre, chacun sera son avis sur la question. Mais on aura encore le temps de rendre hommage à Kobe qui sera introduit au Hall of Fame fin juin. Donc, on aura le temps d'ici là de rendre hommage. Et peut-être que LeBron James lui rendra une dernière fois hommage en remportant le titre devant les Clippers.
Jamais.
Ce sera un bel hommage pour Kobe quand même.
Absolument pas, je m'en fous ça. C'est autre chose, c'est différent.
Et voilà, quand le sport reprend sa ferveur, sa passion, comme on le dirait. Mais en NBA, il n'y a évidemment pas que ça. Il y a eu des trades, un magnifique trade d'ailleurs cette nuit. 12 joueurs sont impliqués entre Houston, Atlanta, Denver et Minnesota. On va pas citer tous les joueurs, hein, mais principalement, on va revenir jusque Covington rejoint Houston, Capella rejoint Atlanta et Denver a enfin un banc du coup. C'est un gros trade, il y a 12 joueurs, ça s'est plus passé depuis les années 2000, même 2000 l'année exacte, un record donc en NBA. La fin du mercato, comme la trade deadline comme on dit dans le jargon, c'est ce jeudi à 21h heure européenne je dirais. Donc d'ici là, n'hésitez pas à suivre l'actualité. Et d'ailleurs, je mentionnerai le live de Trash Talk sur YouTube qui aura lieu demain soir. Si vous voulez suivre la fin du mercato en direct avec des gens passionnés, encore plus que nous, encore plus fous que nous, encore plus incroyable, je dirais même. Et mentionner une dernière chose pour la NBA avant de conclure, que donc le All-Star Game aura lieu, si je me trompe pas, dans deux semaines.
La semaine prochaine.
Ah déjà la semaine prochaine. Et ben là. J'en suis resté avec Kobe hein, moi.
Sacré connaisseur.
Bah évidemment, qu'est-ce que tu crois là de François? Est-ce que tu doutes de mes capacités, de mes connaissances?
Oui.
D'accord, merci François. Mais donc du coup, oui, le All-Star Game qui aura lieu la semaine prochaine. On a déjà eu 5 joueurs à l'Est et 5 joueurs à l'Ouest qui ont été élus. Déjà demain d'ailleurs, on aura les remplaçants qui vont être élus. On en reparlera la semaine prochaine du All-Star Game et donc de cette confrontation entre les meilleurs joueurs de l'Est et de l'Ouest qui seront élus par LeBron James et Giannis Antetokounmpo. Et chacun se fera sa petite équipe. Oui, Nathan.
Les remplaçants ont déjà été annoncés.
Ah ouais?
Ah mais bien sûr.
Ah c'est demain je pensais.
Ah non pas du tout, demain c'est juste la trade deadline. Les remplaçants ont déjà été annoncés.
Ah autant pour moi alors.
Moi je le savais.
Oh là là
le connaisseur.
Oh là là.
Moi aussi.
Oh le connaisseur.
Mais moi aussi je tiens le
précis
quand même.
Mais du coup
même, hein.
C'est qui les remplaçants François?
Alors question ouverte.
Donc Nathan.
Oui donc les remplaçants ont déjà été annoncés.
Bellinelli hein,
je ne pourrais pas, absolument pas. Il est absolument pas dedans les... oh, je pense qu'il n'y a
non,
aucun
non,
joueur.
Non autant pour moi c'est pas les remplaçants. C'est la sélection des équipes qui a lieu demain. Autant pour moi.
Voilà, merci.
J'ai compris.
Mais il y a aussi, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, les concurrents pour le 3-point contest et le dunk contest qui ont été annoncés.
Bon, on reverra là-dessus la semaine prochaine. On fera une grosse page NBA sur le All-Star Game qui s'annonce passionnant pour certains, d'autres beaucoup moins. Et on reviendra évidemment sur les plus et les moins de ce tournoi, de ce week-end à Chicago. Et on va partir donc avec une deuxième chronique de hockey de François qui va nous parler de hockey. Oh, ça, c'est pas surprenant.
En plus, ça avait l'air tellement enjoué de dire ça.
Oui.
Donc tout à l'heure, j'ai parlé de la Pro League. Et là, maintenant, je vais parler du championnat indoor qui touche petit à petit à sa fin et qui a été coupé par les championnats d'Europe indoor, donc où les deux équipes nationales jouaient en division 1 avec des résultats assez similaires, assez décevants. Il y a deux ans, la Belgique avait été vice-championne d'Europe et avait terminé 5e des championnats du monde, de la Coupe du monde de hockey en salle. Et cette année, année de Coupe d'Europe, la Belgique a dû, chez les messieurs en tout cas, ont dû lutter contre la relégation. Ils se sont sauvés au dernier match contre la Pologne, victoire 7-4. Mais vraiment, c'est vraiment un championnat à oublier quand on voit que l'Allemagne est championne d'Europe. Le match d'ouverture, c'était Belgique-Allemagne, score final 1-12. Prendre 12 goals, puis ensuite jouer contre les Pays-Bas qui étaient anciennement une équipe de division 2 en salle, ils perdent 7-4. Soit c'est vraiment un championnat d'Europe à oublier. Pour les dames, c'était un peu plus encourageant. Il y a 2 ans, elles étaient encore en division 2 et elles avaient remporté le championnat d'Europe B. Donc cette année, l'objectif était le maintien. Malheureusement, il n'a pas été atteint, mais c'est vrai que la différence de niveau entre la division A et la division B est énorme. Elles se sont quand même bien défendues, mais terminent quand même 7e sur 8 de ces championnats d'Europe et doivent donc redescendre en division 2. Donc les championnats avaient lieu à Minsk. Donc ça c'est tout pour la page des championnats d'Europe. Mais par contre ce week-end c'est les playoffs, donc la fin des championnats que ce soit jeunes ou seniors. Et en gros chez les messieurs on n'a pas vraiment de surprise. Le Léo, le White Star, le White Ducks et l'Amical Anderlecht forment le Quatuor qui se battront pour le Graal au Spiroudôme de Charleroi, enfin au Dôme de Charleroi, on ne peut plus dire le Spiroudôme, au Dôme de Charleroi ce week-end. Si ce n'est la surprise, c'est que le Racing Uccle descend en division 1. Pour vous faire un topo, le Racing a gagné 7 des 10 derniers championnats de Belgique de salle et ils descendent. Dans ces 10, il y en avait 2 pour Namur. Namur est descendu en D1 l'année dernière. Donc en 2 années de temps, les deux GOATs, on va dire, du championnat indoor sont descendus. Namur, qui d'ailleurs est vice-champion en D2, donc il remonte en division d'honneur avec le Pingouin, qui était aussi descendu en D1 l'année dernière.
Le Pingouin, c'est drôle.
C'est le Pingouin de Nivelles, voilà, sur leur banquise. C'est un peu nos frères ennemis. On s'entend, enfin, on les connaît tous très bien, mais on les déteste.
Ils sont bien drôles.
L'autre promu de l'année dernière, les promus de l'année dernière, c'est le Baudouin et Loré. Loré a réussi à se maintenir face au Racing. Par contre, le Baudouin n'a engrangé qu'une seule petite victoire en 14 rencontres et redescend aussi vite qu'ils sont montés en D1. Donc ça c'est pour les messieurs, le titre va sûrement se jouer entre le Léo et le White Star. On aura donc les demi-finales seront Léo Amical Anderlecht et White Star Waterloo Ducks. Donc l'affiche des demi c'est clairement White Star Waterloo Ducks qui pourrait amener une petite surprise en voyant Waterloo s'imposer. Par contre le Léo devrait l'emporter sur l'Amical Anderlecht. Chez les dames, on voit d'autres équipes, le White Star est aussi là. Il y a le Waterloo Ducks qui est aussi présent dans le top 4. Mais alors ici, on a l'Antwerp et le Racing. Bizarrement, le Racing chez les dames, ça fonctionne bien. Qui vont retrouver, chez les filles, on va retrouver les joueuses qui reviennent de Chine. Enfin non, du coup, vu qu'elles ne sont pas allées en Chine. Mais certains clubs vont retrouver certaines joueuses des Red Panthers. Par exemple, à Waterloo, il y a 3 joueuses qui vont réintégrer le noyau. Même chose au Racing. Une au White Star et une à l'Antwerp, ça va donner de belles playoffs, on aura droit à de très très beaux matchs. Là-bas, les demi-finales seront White Star Racing et l'Antwerp White Ducks. Si je devais me mouiller, je dirais que la finale pourrait sûrement se jouer entre le White Star et le White Ducks, mais ça aura lieu donc dimanche. Juste petite anecdote, je viens de couper la page qu'il fallait absolument pas.
Effectivement, tu viens d'arriver sur Facebook, sur le profil de...
Qui est-ce, François, cette jolie demoiselle dont tu regardes le profil?
Ah, c'est notre invité qui va bientôt arriver dans les semaines.
C'est pas ton date de ce soir?
Non, du tout. Et du coup...
Oui, parce qu'il faut savoir que François va nous quitter plus tôt pour
aller
pour une compagnie féminine. J'espère que tu le tiendras au courant et que tu nous donneras des nouvelles la semaine prochaine.
Évidemment, mais du coup, je reviens au Dôme de Charleroi. Il y a donc les demi et les finales seniors, mais il y a aussi les demi-finales jeunes, avec vendredi soir déjà les demi-finales pour les U19. Donc c'est ceux qui ont entre 16 et 19 ans, je vais pas vous faire de dessin. Et salut Hugo.
Hugo qui s'en va. On le salue et on lui dit à la semaine prochaine.
Semaine prochaine Hugo.
Salut. Et samedi, salut. On aura droit aux demi-finales des U14 et des U16, aussi bien filles que garçons. D'ailleurs, je vais siffler une demi-finale en U16 et si je la siffle bien, j'aurai peut-être la finale du dimanche.
D'où le dé de ce soir donc.
C'est pour lui porter bonheur et pour le détendre un petit peu.
Exactement,
c'est là que tu les trouves.
Il a fait franchement merci Timo.
Sacré feinte. Et donc voilà, mais il y aura aussi donc les finales U19, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de matchs. Vous êtes vraiment des énormes bâtards.
Il y a beaucoup de matchs. Merci François.
Et voilà, et du coup, dimanche, punaise.
Ouais, parce que vendredi, t'es avec ton déton.
Non, c'est ce soir.
Bien essayé, Maxence. Tu ne suis encore rien à la conversation, comme
ce soir et vendredi.
Bon, voilà.
Enfin, soit. Et donc, dimanche, il y aura les finales, que ce soit en U14, en U16, en dames et en messieurs. Donc, la finale messieurs à 16h30. Les tickets sont à prendre sur le site hockey.be. C'est très simple et ça va être une belle fête du hockey indoor parce que c'est vrai que ça se développe de plus en plus en Belgique et c'est vachement sympa.
Sport Hub, on retourne l'actualité sportive.
Et on va repartir avec une actualité beaucoup plus sérieuse. On va parler donc de l'Australian Open, un tournoi qui nous aura endiablé.
Oui, il faut une finale qui aurait été.
T'es dit pour quelque chose de beaucoup plus sérieux.
Bah oui.
Ça partait bien, et puis malheureusement, tu es retombé dans tes travers, Maxence.
Bah non, c'est beaucoup plus sérieux.
Oui, d'accord. C'est beaucoup plus sérieux. On salue d'ailleurs Karine, la maman de François, qui nous écoute actuellement.
Bonjour Karine.
Bref. Voilà, donc on repart sur quelque chose de plus sérieux, comme l'a dit Maxence, avec l'Australian Open. Australian Open, oui, je vais baisser un petit peu la musique, merci de me le rappeler. Et la musique dans le studio aussi, voilà, on nous entend peut-être mieux comme ceci. Alors, du coup, on en était à l'Australian Open. On va commencer par les dames, par pure galanterie, avec une nouvelle venue sur la scène des gagnantes de Grand Chelem, en la personne de Sophia Kenin, dont c'était la première finale en Grand Chelem et première victoire pour elle. Elle aura fait un bon tournoi vu qu'elle a gagné. Alors une petite anecdote, je vous jure que c'est vrai, elle a fait un bon tournoi parce qu'elle a gagné. Et petite anecdote sur elle, c'est que quand Kim Clijsters avait gagné l'Australian Open, elle avait eu droit à une petite visite guidée de toutes les installations en compagnie de Kim Clijsters et elle lui avait dit un jour je gagnerai l'Australian Open. Et donc c'est un peu la belle histoire de cette année, je trouve. Belle histoire qui a donc pris fin avec cette victoire face à Garbine Muguruza, la numéro 16 mondiale. Victoire en 3-7. Ça avait mal démarré pour Sofia Kenin qui a perdu le premier set 6-4 et ensuite elle a enchaîné 2 sets de très haut niveau. 2 sets qui se sont soldés sur le score de 6-2 tous les deux. Voilà, donc c'était un peu la surprise de cette Australian Open. Je trouvais ça sympa de lui faire un petit clin d'œil. Et ensuite, on va passer chez les messieurs, en commençant par notre Belge. Notre Belge qui est très très inconstant, dont on attendait un peu plus à cette Australian Open.
Comme à chaque compétition.
Comme finalement. À chaque compétition, on est déçu. Et cette fois-ci, c'était pas le seul à être déçu. Donc il a déçu ses supporters, il s'est déçu lui-même. Et même son coach était assez remonté après sa défaite face à Andrei Rublev en 16e de finale. Andrei Rublev qui était jusqu'à ce match invaincu et qui donc après ce match est resté invaincu. Rublev qui a été battu au tour suivant, il me semble, par Alexander Zverev. Juste pour la petite histoire, on buvait donc un petit verre avec Maxence et Sacha juste avant l'émission, histoire de préparer ça dans les meilleures conditions possibles. Et on s'est fait la réflexion que les bookmakers mettaient étonnamment Andrei Rublev gagnant, je pense, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, exact.
Oui, parce qu'il était invaincu, alors que Alexander Zverev est quand même un cran au-dessus. Et je trouvais ça assez improbable que soit lui le favori.
Oui, mais il faut aussi dire que Zverev sait se montrer assez inconstant dans les grands tournois.
C'est vrai qu'il a du mal avec la pression sur une
série assez fantastique en 2020 où il avait déjà gagné deux tournois de préparation.
Oui,
et c'est un jeune loup qui monte. Donc voilà, finalement, c'était quand même un match assez indécis, en tout cas avant qu'il ne commence, voilà, dans les stats, on peut pas vraiment compter sur Zverev avant le match parce que voilà, on était encore assez tôt dans le tournoi, on savait pas trop comment il allait gérer finalement cette pression du premier grand tournoi de l'année, et Rublev lui était dans la forme peut-être de sa vie, donc ouais. Ça peut se comprendre tout de même.
Ouais, il était donc sur, je viens de vérifier, il était sur 11 victoires consécutives avant donc sa défaite face à Alexander Zverev. Alexander Zverev donc qui a pour une fois fait un bon match et qui n'a pas craqué dans les moments importants puisqu'il a breaké 3 fois Andrei Rublev pour s'imposer 6-4, 6-4, 6-4. Ensuite Zverev petit trou de mémoire.
Zverev a battu Wawrinka.
Qui a battu Wawrinka, exactement.
Il a retrouvé Thiem en demi-finale.
Oui, Thiem qu'il a battu. Enfin, Thiem, auteur d'un très bon tournoi. C'était mon deuxième top du tournoi avec Djokovic, évidemment. Donc, Thiem qui atteignait sa troisième finale de Grand Chelem, c'est ça ?
Thiem, oui, il a fait deux fois Roland-Garros, deux fois battu par Nadal sur ses terres, finalement.
Sur sa terre.
Et voilà, la finale de l'Australian Open 2020.
Oui, donc finale qui a été assez indécise jusqu'au bout, dans la mesure où Djokovic nous a paru un peu, comment dire, affaibli, un peu nonchalant lors du deuxième et troisième set. Il s'est vraiment, enfin, le troisième set qui perd 6-2, il a vraiment laissé filer à partir du moment où il a vu qu'il ne pourrait pas le gagner. Il jouait plus, quoi. On aurait dit Kyrgios dans ses plus mauvais jours. Vraiment, enfin, il en avait vraiment rien à faire du match. Et puis il a demandé un time-out médical. Et après cette petite interruption médicale, il est revenu à son meilleur niveau, c'est-à-dire que c'était le Djokovic qu'on connaissait, donc le mur infranchissable qui remettait toutes les balles, et il n'a plus été inquiété par Thiem, la preuve par le score. Après le time-out, il a gagné 6-3, 6-4 les deux derniers sets. Victoire logique, Djokovic a été bon pendant 3 sets, ça a suffi. Voilà, donc Thiem qu'on reverra sûrement, je pense, en finale de Grand Chelem, peut-être déjà à Roland-Garros cette année comme les deux années précédentes. Et voilà, j'avais lu un article sur Facebook, je sais plus sur quelle page, qui disait que Djokovic, il ne jouait pas pour gagner, il jouait en fait pour faire perdre les autres. Et je trouvais ça assez vrai parce que, enfin, il a pas, comment dire, il a cette rage de vaincre, mais il va jamais y aller de la meilleure des manières. C'est-à-dire qu'il va vraiment y aller de manière sournoise. Donc, comme en témoignent les pauses médicales qu'il demande à chaque fois qu'il est en difficulté, il en revient à chaque fois beaucoup plus fort. Et voilà.
Après, il n'en démérite pas tout non plus parce que dans les moments, même dans, on se faisait quand même la réflexion aussi que même dans les moments où on avait l'impression qu'il laissait filer le match. Il a une qualité tennistique qui est absolument indéniable parce qu'il joue en marchant et Thiem mettait des énormes frappes comme à son habitude et Djokovic retournait juste revers longue ligne, coup gagnant, alors qu'il se déplaçait en marchant, voire en trottinant, et ça n'avait pas l'air de lui faire grand chose. Donc on voit quand même que c'est un champion dans le sens où il sait qu'il peut avoir des mauvais moments et qu'il arrive à les laisser un peu filer, quitte, voilà, comme dans le troisième set, il a juste laissé filer 6-2 pour finalement revenir un peu plus fort après. Et c'est, voilà, de sa part, c'est assez bien joué. Et c'est vraiment dommage pour Thiem d'un autre côté, parce que lui aussi avait sorti un grand tournoi en éliminant notamment Rafael Nadal en quart et puis Zverev en demi. Néanmoins, pour Thiem, il y a aussi du positif à retenir parce que, bah, tout d'abord, il a encore montré qu'il pouvait se hisser jusqu'en finale d'un grand chelem. Et aussi que par rapport à d'habitude, il s'est également joué sur dur, parce que Thiem est plus un joueur de terre battue d'habitude, en tout cas dans ce qu'on en dit. Et là, il a prouvé que, voilà, sur un tournoi sur dur, on pouvait aussi compter sur lui. Et pour le moment, il a vraiment du mal à franchir le pas face aux trois grands. À chaque fois, il tombe sur finalement plus fort que lui, en tout cas dans la gestion des grands moments. Mais ce qui est bien, c'est que avec Thiem, en tout cas, ce que moi j'apprécie vraiment chez lui, c'est qu'il ne renonce jamais à sa philosophie de jeu, qui est juste de jouer de l'avant tout le temps et dans tous ses coups, peu importe le point, même si c'est un point super important, il va tout donner, il va y aller franchement, et il va rien retenir. Et voilà, on l'a vu notamment face à Rafael Nadal, où il a juste mis des énormes coups tout le temps. Il tentait le coup gagnant. Alors oui, ça demande un brin de chance. On l'a vu avec les bandes qu'il a fait notamment. Mais d'un autre côté, la chance, il la provoque parce que, bah, il y va à fond, et Rafael Nadal l'a concédé lui-même. Thiem avait été meilleur sur ce match-là et méritait de gagner. Et donc voilà, c'est assez prometteur pour les prochains tournois, parce que bon, finalement les trois grands restent quand même incontestés pour le moment, mais peut-être plus pour si longtemps, parce que voilà, Tim il a quand même 26 ans, il fait pas partie de la baby gen comme Tsitsipas, comme Medvedev, comme d'autres qui arrivent, il fait partie un peu de cette génération entre les deux où personne n'a
Kyrgios entre autres,
ouais, voilà, où personne, Dimitrov qui est un peu tombé dans l'oubli finalement, où personne n'a réussi à se hisser jusqu'à présent à hauteur des trois grands qui prennent toute la place, et Murray avant quand il jouait encore à ce niveau-là avant ses blessures malheureusement. Et du coup voilà, peut-être qu'on aura enfin un peu de renouveau, en tout cas moi je l'espère, parce que ce serait quand même chouette que d'autres personnes gagnent un peu des masters, des grands chelems, parce que c'est très chouette d'avoir ces trois légendes du tennis, mais voilà, s'il pouvait y avoir un peu plus de débats comme il y a chez les femmes. Alors bon, chez les femmes c'est exagéré,
ça fait quelques années que c'est comme ça et que c'est incertain jusqu'au bout, tu sais pas qui va gagner, tout le monde pourrait gagner le grand chelem, sortir deux bonnes semaines quoi.
Et on voit des cracks un peu toutes les années, il y en a une nouvelle joueuse qui s'élève et qui finalement ne confirme pas. Voilà, avec Kenin on va un peu voir, elle s'élève, elle gagne un grand chelem, comme il y avait eu Ostapenko à Roland Garros, qui avait fait un énorme Roland Garros, puis elle est juste
tombée dans l'oubli. Ouais, c'est exactement ça.
Et elle avait 18 ans, donc on se disait la future crack, et voilà, Maxence, un avis tennistique
en tennis.
Évidemment, un avis tennis. Moi je voulais te dire, de toute façon Kim Clijsters veut mettre tout le monde d'accord à Roland Garros.
C'est très vrai ça.
Kimi va être de retour.
La grande Kim
va potentiellement jouer ce week-end de la Fed Cup. Ouais. Voilà.
C'est la raison pour laquelle Maxence n'intervient jamais en tennis, c'est parce que il raconte un peu des bêtises.
Bah c'est vrai, non, je sais vrai.
Non, ici la Fed Cup c'est vrai, mais Roland Garros un peu moins quoi.
Ouais, bien sûr, mais
on a compris que c'était sur la rigolade.
Kim Clijsters qui est donc en sparring partner pour le moment, donc elle s'entraîne avec les joueuses belges à la Fed Cup et je pense qu'il y a Johan Van Aert qui a jusque demain pour dire si elle participe
entre la sélection.
Ou pas. Donc voilà. Potentiellement, elle pourrait toujours jouer, mais ce n'est normalement pas son rôle.
Non, ça, après, ça, elle apporte quand même un paquet d'expérience à notre jeune équipe de Fed Cup. Et rien que ça, c'est. Enfin, je trouve que c'est une bonne chose. Après, de là à la revoir sur un terrain, je sais pas. Franchement, je suis mitigé sur son retour. J'attends de voir comment elle va jouer avant de me prononcer.
Moi, je suis comme toi. Elle le dit elle-même. Elle ne pense pas revenir au top niveau comme elle était avant. C'est elle-même doute de ses compétences, mais bon, vu son âge déjà assez avancé pour le tennis, je pense pas que voilà, elle reviendra dans le top 10. Moi, j'en conclus que le top 50 serait déjà très bien pour elle. Je pense pas que elle pourra encore remporter un grand chelem ou quoi que ce soit.
Après, chez les femmes, j'ai envie de dire, tout est possible de A à Z jusqu'au bout, donc ne jamais dire jamais. Mais même si ça me paraît également aussi très très improbable pour le coup. Et il est actuellement 19h46 et nous avons trois départs supplémentaires.
Trois départs, effectivement.
On était donc parti sur deux avec Sacha et Maxence qui vont nous quitter malheureusement comme chaque semaine un petit peu en avance.
Effectivement.
Le train n'attend pas malheureusement.
On va rater le débat sur le mercato belge et ça me déçoit énormément.
Le mercato du standard. Et François va nous quitter pour aller vaquer à ses occupations sentimentales.
Et occuper sa nuit.
Mais je voudrais juste dire coucou à Victoria qui nous écoute d'Argentine.
Tu ne fais même pas coucou à ta maman, c'est quand même un peu triste ça.
Maman, je t'aime.
Oh là là.
C'est beau.
Moi aussi. Écoutez bien la fin de cette émission, donc ça va parler évidemment du mercato belge et nous avec Sacha on vous dit la semaine prochaine et bonne fin d'émission donc.
Et bisous cousin, là où ça fait plaisir évidemment.
Et nous voilà de retour sur Air Live pour la dernière partie de l'émission. On va parler maintenant un peu du mercato du standard et ensuite on enchaînera avec les transferts phares de chaque équipe avec Thibaut. Pour le standard, on a eu trois entrées avec le médian défensif Shamir qui nous vient d'un club israélien, je pense. On a Sissako qui nous vient du PSG, un jeune joueur en prêt avec option d'achat, donc qui ne devrait normalement pas jouer avec les professionnels cette saison. C'est plus un pari sur l'avenir, de même que Nekadio, pardon, qui n'est autre que le frère de Christian Louis Ndama, qui joue également en défense. Ça, c'était pour les trois transferts entrants.
Je sais pas si regardé le match contre Courtrai.
Non, je n'étais pas à la maison, donc je n'ai pas su suivre le match malheureusement. Mince. Mais je dirais, enfin malheureusement, on va dire heureusement, ouais, vu le score.
Mais vu le match aussi, heureusement, parce que c'était, ouais, c'était une qualité très 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 médiocre. Mais Shamir, malheureusement, il fait 3 erreurs et c'est 3 buts pour Courtrai. Mais sinon, enfin, il a été auteur d'un bon match. Mais voilà, 3 erreurs, 3 goals, ça lui plombe un peu son match. Voilà, mais sinon je pense que lui, ce sera un bon transfert pour moi, sur un match en tout cas pour l'instant. Au niveau des transferts sortants, par contre, le Standard a été plutôt actif avec les deux départs notoires de deux cadres de l'équipe que sont Pocognoli et Goreux. Ils ont tous les deux rompu leur contrat et alors Pocognoli a pris la direction de l'Union Saint-Gilloise où il s'est engagé pour une saison, je pense. Pour moi c'est un bon choix de carrière, je trouve. C'est un chouette choix de carrière pour lui qui va peut-être retrouver la D1 alors s'ils arrivent à monter, vu qu'ils sont encore bien dans la course là. Ensuite on a eu Réginald Goreux, donc lui il n'a pas repris dans un autre club, il s'est plutôt dirigé vers l'académie où il encadrera les jeunes joueurs, enfin il encadre déjà les jeunes joueurs, donc dans un rôle un peu plus de conseiller dans un premier temps et qui évoluera au fil du temps aussi. Aussi autre départ notoire, celui de Renaud Aymond, donc qui était le meilleur buteur en activité du Standard, qui est parti pour le FC Nantes. FC Nantes qui a aussi repris Limbombé qui était en prêt au Standard et qui n'a jamais vraiment fait son trou parce que en raison de multiples blessures, petites blessures qui l'ont freiné. Il n'a jamais retrouvé son niveau, le niveau qui était le sien quand il était à Bruges entre autres. On a Uche Agbo qui est reparti en prêt au Deportivo La Corogne cette fois-ci. Nathanaël Frenois, donc un jeune issu de l'académie qui est parti au RFC Liège en prêt, donc là au niveau de l'équipe c'est quand même un sacré bond en arrière, parce que le RFC Liège n'est pas très bien classé, enfin je sais plus où ils sont exactement dans quelle division, mais
des deux amateurs, non,
des deux amateurs, ça, quelque chose comme ça, ouais. Et le dernier transfert sortant, c'était Paul-José Mpoku, donc le capitaine du Standard qui s'est donc engagé avec Al-Wahda, un club, on sait tous pourquoi il s'est engagé là-bas, hein, entre
l'argent,
on va pas
merci.
Se mentir, exactement. Et il y a eu un transfert qui a été avorté, c'était celui de Junior Edmilson qui était censé revenir au Standard et le transfert a capoté au dernier moment à cause d'un de ses coéquipiers qui jouait plus ou moins même poste que lui, qui s'est gravement blessé au genou et donc qui est indisponible jusqu'à la fin de la saison. Donc Edmilson n'a pas pu revenir, au grand dam de nombreux supporters liégeois dont je fais partie, parce que c'était un très bon joueur et ça n'aurait pas fait de mal dans une attaque qui a beaucoup de mal à se trouver et à marquer des buts. Parce qu'on attend toujours un peu la confirmation de Felipe Avenatti et Obi Oulare qui sont en dessous du niveau qu'on leur connaît et qu'on attend d'eux, quoi. Donc je sais pas si tu veux réagir ou quoi.
Ouais, Emilson, transfert avorté, ça fait un coup au moral pour les supporters, pour les joueurs et pour la direction. Bon, après, voilà, ils n'en peuvent rien. Il aurait pu reprendre le rôle de Paul-José Mpoku, je pense. Et tu as oublié de mentionner, c'est le retour de prêt de William Balikwisha.
Oui, mais qui est reparti directement prêt à Maastricht, je pense.
Oui, à Maastricht, ouais. Il revenait du Cercle de Bruges. Et donc,
avec un prêt qui n'a pas été des plus réussis non plus. Il n'a pas joué beaucoup là-bas. Et donc, on espère pour lui qu'il jouera un peu plus à Maastricht. Mais l'avenir nous le dira.
Oui. Et donc, juste pour Emilson, je suivais sa story Instagram et il me semble qu'il s'est aussi blessé.
Ah ouais,
ouais, il est en béquille.
Bah voilà, c'est pas la première fois, je pense, hein, pour lui. Juste pour revenir sur les attaquants et Felipe Avenatti en particulier, j'ai regardé le match contre Courtrai et honnêtement, il a pas eu. Je pense que s'il a eu un ballon exploitable sur le match, c'était déjà bien, quoi. Le Standard vraiment très très mal joué et vraiment déçu de ce match. Mais voilà, donc je vais te laisser conclure avec les transferts phares de chaque équipe et puis il sera déjà l'heure de se quitter.
Oui, écoute, je vais procéder à mon petit review sur le mercato belge. Westland Beveren, on ne va pas en parler, ils n'ont pas été très actifs. Pourtant, ils auraient dû l'être vu leur classement. On rappelle avant-dernière place. Zulte Waregem, si je devais choisir un classement phare, ce serait pour moi le célèbre Jelvossen qui vient de sortir de 5 saisons au FC Bruges. Et qui a fait ses débuts dimanche dernier
avec
et a contribué.
Ouais.
Donc il a joué les 90 minutes et avec deux buts même. Et il a contribué à la large victoire contre Westland Beveren 5-0. Et donc je vais spécifier quand même, il ne pourra pas jouer ce soir en demi-finale retour de la Coupe de Belgique contre son ancien club, le FC Bruges, car le FC Bruges paye encore une partie de son salaire.
Exact.
Au stand, si je devais préciser un départ, ce serait Wout Faas. Puisqu'il a été directement acheté par le stade de Reims et puis dans la foulée reprêté à Ostend pour finir la saison de ce côté-là. Et sinon, un transfert sortant du côté d'Ostend, c'est quand même le fameux Fernando Canizin qui avait quand même fait son trou à Ostend. Pour le Royal Excelsior Mouscron, on a Dylan Seys qui est parti à Walwijk et Enes Saglik qui était à la recherche de temps de jeu avec Charleroi puisqu'il n'en a pas bénéficié.
Il a cassé son contrat, je pense, avec Charleroi. Oui. Je pense que c'est ça et qu'il est parti libre.
Oui, moi, c'est ce que j'ai mis ici.
Ouais.
Et donc, 0 minute avec Charleroi, c'est compréhensible. Saint-Tron, on notera deux arrivées, c'est Rocky Bouchiri de Norwich City en Championship et Ko Matsubara de la Ligue japonaise. Ensuite, on a le transfert sortant Johan Boli hein, qui avait des préférences du côté de Bruges, l'Antwerp et du Standard. Ensuite, on a Genk, si je dois en préciser un, évidemment, on précisera que c'est le Norvégien Sanderberg qui devient le transfert sortant le plus prolifique de l'histoire de la Jupiler Pro League. Ensuite, à la Gantoise, on a Sven Kums qui a été officiellement transféré à Gand et Sulamen Mare. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, du côté d'Eupen. Du côté d'Eupen, c'est dans les départs que ça s'est fait. Ils ont perdu pour moi un des joueurs les plus sous-cotés de la Jupiler Pro League, c'est Yuta Toyokawa, qui est parti au Japon. Du côté du FC Bruges, ils ont perdu quelques joueurs phares. Il s'agit de Amadou Sagna, Dion Coles et Sofiane Amrabat. Oui, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, c'est juste pour te dire qu'il sera bientôt l'heure.
Ok. Ben, je fais vite alors. Malines, pas très actif non plus. Le Cercle de Bruges a été très actif, mais rien de très concret, pas des joueurs très, très importants, si ce n'est l'arrivée de Isaac Christie Davis, un jeune talent de Liverpool. Charleroi, on notera l'arrivée de Joris Kayembe du FC Nantes, club actuel de Renaud Aymon. À Courtrai, on a l'arrivée de Timothy De Rijk et Yevhen Makarenko d'Anderlecht. L'Antwerp conserve son noyau comme il est, même s'ils ont officialisé trois arrivées, mais rien de très important. Et le pompon, c'est quand même Anderlecht qui a officialisé trois départs dans les dernières heures de ce mercato et qui a vendu Alexis Selemakers, deuxième belge à goûter à l'AC Milan.
Et voilà, c'est ici qu'on va se quitter. Un dernier mot pour conclure l'émission.
Oui, maman, petit bisou à toi, je t'aime, écoute, c'est gentil de nous écouter. Hein.
Au revoir et à la semaine prochaine.
Et voilà, c'est donc ici qu'on se quitte. Et il n'y a plus d'émission sur AirLive, je pense, aujourd'hui. Retrouvez AirLive demain en pleine forme. Et à la semaine prochaine.
Bisous.